Vous écoutez
RMC.
RMC.
J'essaie de faire mon mieux, d'apporter pire à la déficit et donc je suis content.
Oh mon Dieu, de bordel de merde, que c'est bon! Bordel!
Je terminerai en vous disant simplement sié-sié et puis c'est tienne.
Jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Bonsoir à tous, l'after continue en direct jusqu'à minuit, l'after en direct sur RMC et en direct sur la chaîne YouTube de l'émission after-foot avec ce soir Stéphane Guy qui est là. Salut Stéphane.
Citoyen, bonsoir.
Avec Daniel Riolo. Salut Daniel.
Bonsoir les amis.
Vous le savez, l'after, votre espace de liberté, votre espace d'expression, à vous les supporters de foot. Et l'événement ce soir, messieurs, c'est la présence parmi nous dans quelques petites secondes de Grégory Lorenzi, le directeur sportif de Brest, qui réalise une saison extraordinaire. On va pouvoir lui poser toutes les questions qui nous brûle les lèvres dans quelques instants. Et puis le titre du PSG sera également au programme, le 12e. Daniel veut en parler, ce sera dans une demi-heure. Évidemment, on essaiera de mettre en perspective par rapport aux autres titres, ce qui s'est passé ces dernières saisons, notamment, et puis l'avenir, le 32-16 supporter parisien est ouvert. Après 23h, on débattra des forces en présence à 3 jours de la fin concernant la course aux places européennes, concernant la course au maintien, et nous donnerons avant minuit notre avis sur la sonorisation des arbitres qui a été annoncée ce matin officiellement et qui entrera en vigueur la saison prochaine en Ligue 1, voilà. Dans certaines circonstances, hein, pour l'instant. C'est très précis, vous allez voir.
Comme je l'expliquais la semaine dernière, il y a des problèmes graves dans l'arbitrage. On a essayé de les décrire, de dire pourquoi. Et j'avais dit, vous verrez que la seule réponse, ça va être ce gadget de la sonorisation, en pensant que parce que quelqu'un explique son erreur, ça va mieux passer. Ok, bah continuons avec des arbitres et sans se soucier de leur formation, de comment ils sont nommés et pourquoi.
Le
et
débat tout à l'heure, Daniel.
Voilà.
Lâche pas tout de suite.
Il est fort.
Et puis on a un direct Ligue 2 ce soir, puisque Dunkerque reçoit Auxerre, le leader, Jean Bommel. Bonsoir, salut Gilbert.
Salut Gilbert, bonsoir Daniel, bonsoir Stéphane. L'heure de jeu et Auxerre qui vient d'égaliser suite à ce joli but inscrit par. J'ai perdu son nom.
Ah bah ça c'est un problème.
C'est un gros souci. C'est Sina Yoko.
Lilian Lasland.
Non, Sina.
Enzo Chiffon.
Sina Yoko. Il y en a un qui centre collègue. Sina Yoko qui va.
Patrice Cocard.
Lasland.
Christophe Cocard.
Pascal Veilleruat. Pascal Veilleruat. Christophe Cocard, bien sûr, pardon.
Donc Sina Yoko, tu dis, hein, Diego.
Ouais, Sina Yoko. Non, ouais, voilà. Gros trou de mémoire de ma part, désolé. Centre gauche donc de Gaëtan Perrin, reprise. C'est logique, hein, de voir l'AG Auxerre revenir, parce qu'ils ont dominé ce match. Ils se sont fait vraiment surprenants en première mi-temps par l'ouverture du score à la 20e de Yacine sur un duel remporté face à Léon. Et donc pour l'instant, on va dans. Pour la montée, ben, je sais prendre un petit point d'avance.
Ta liaison est complètement pourrie, on va te reconnecter parce qu'on comprend rien. En tout cas, il y a un partout entre Dunkerque et Auxerre et on est en deuxième mi-temps.
Tu rappelles Dominique Cuperli, c'est urgent.
On te rappelle. Et puis c'est la mi-temps en Espagne entre le Barça et Valence. Surprise, Valence mène 2-1 à la mi-temps à Barcelone sous la pluie au stade de Montjuïc.
C'est encore beaucoup illustré.
Exactement.
Grande finesse.
Le public est un peu déserté parce que c'est un stade qui n'est pas couvert. Donc tu te prends la pluie dans la tronche. Moyennement agréable. Il y a un autre stade où parfois on se prend la pluie dans la tronche, c'est Brest. Ah oui, non, mais c'est vrai, toutes les tribunes ne sont pas
ça
protégées.
Dépend. Si tu es au balcon de l'immeuble en face,
ah oui.
Tu peux t'abriter.
Là, t'es bien. Et on a la chance d'avoir avec nous Grégory Lorenzi, directeur sportif.
Et lui, il n'est pas sous la pluie quand même.
Du stade Brest, je pense pas. Il est bien protégé. Ouais. Bonsoir, Grégory.
Messieurs, bonsoir à vous.
Oh, bonsoir, bah attendez, parce qu'il y a un nouveau but pour Auxerre, Jibo.
Ah, bah, il est plus.
2-1 pour Auxerre, on le retrouve tout à l'heure. Excusez-nous, voilà. Grégory, mais c'est la Ligue 2. Hein, parfois, ça s'enflamme.
But de Marama Bayer.
En direct, Gaëtan Courtet contre son camp.
Ah ben bah, voilà, merci pour notre envoyé spécial, voilà. Grégory Lorenzi.
c'est une vraie question. Ça, qu'est-ce qu'un sudiste comme vous est allé faire dans ce club le plus à l'ouest de la France?
Le soleil, bien évidemment. Ça, voilà, il y en avait pas assez, donc il fallait pour moi prendre un petit peu plus de pluie, donc c'est pour ça que avec plaisir on est venu goûter aux joies de la Bretagne, voilà.
En tout cas, en plus, je crois qu'on en avait parlé tous les deux pour un numéro de la revue de l'After du rôle des directeurs sportifs en général et donc du vôtre à Brest. C'est quand même une sacrée aventure et une aventure, j'ai envie de dire, que vous pouvez revendiquer parce que à Brest, il y a un président qui est présent certes, mais qui n'est pas dans vos pattes parce que il fait tout ce qu'il faut pour le bien du club, mais c'est pas un dingue de, enfin, comment dire, c'est pas un dingue de foot, c'est pas un grand connaisseur de foot. Donc, il vous laisse travailler. Chacun est à sa place dans le, dans ce club. Et ce que vous avez réussi à construire, vous, depuis, des années maintenant, je sais pas si c'est un aboutissement, je sais pas si vous-même, parce que Brest aurait très bien pu travailler au-delà de bien, sans faire la saison que vous faites cette année, sans viser la Ligue des Champions, parce que Brest qui travaille bien en étant 6e, 7e, 5e, c'était déjà sacrément bien. Mais là, vous faites encore mieux. Est-ce que, Greg, vous aviez vous-même imaginé que ça pouvait être aussi bien ?
C'est vrai qu'au départ, quand on a la chance de, voilà, d'avoir un rôle important dans un club professionnel, à l'époque, on était en Ligue 2. C'était pas forcément facile parce qu'on avait 8 joueurs sous contrat. On n'avait pas d'entraîneur, on avait une nouvelle équipe dirigeante qui arrivait, donc moi avec mon président, très peu d'expérience à ce niveau-là, et le voir 8 ans après aujourd'hui, acter une compétition européenne pour la saison prochaine et être aujourd'hui à la lutte pour les derniers places de Ligue des Champions, c'est magique. Voilà, c'est vrai qu'il y a un bout de chemin qui a été fait. Comme tu le disais ou vous le disiez tout à l'heure en introduction, on a un président qui préside tout simplement.
Ouais.
On a un directeur qui essaye d'avoir un projet sportif à développer, à mettre en place, et puis un entraîneur qui entraîne, qui coach, qui fait progresser ses joueurs, et puis les joueurs qui prennent beaucoup de plaisir, qui donnent beaucoup de plaisir également, et qui arrivent à faire des choses extraordinaires quand c'est saison.
Est-ce que ces choses extraordinaires, honnêtement, elles vous surprennent? Le groupe, c'est vous qui l'avez façonné. Vous connaissez les joueurs quand vous les recrutez, bien sûr. Je sais comment vous bossez. Mais de là,
vous imaginiez quoi l'été dernier?
Être deuxième ou troisième de la Ligue 1 avec ce groupe-là. Moi, je veux bien que surperformer, c'est génial. Mais est-ce que vous les connaissez mieux que personne, ces joueurs? Vous pensiez qu'ils pouvaient être à ce niveau?
Non, on va être réaliste. De toute façon, quand on est Brest, on sait très bien que le plus important et l'objectif prioritaire, c'est de se maintenir. Quand on vit une saison comme on a vécu l'année dernière, très compliquée, avec un début de saison où on est relégable, et on fait une deuxième partie de saison exceptionnelle et on arrive à se maintenir à 3 journées de la fin. Donc quand on démarre ce championnat cette année, bien évidemment, on ne voit pas autre que d'avoir un maintien en bout de saison. Et aujourd'hui, quand on commence la saison, et quand on voit ce que les joueurs sont capables de faire et ce qu'ils ont surtout produit depuis cette première partie de saison, ben on se dit que peut-être ça va pas durer parce que bien évidemment les gros rentreront dans leur dans la case, on va dire, et que peut-être les petits retrouveront leur place. Mais force est de constater que depuis aussi cette deuxième partie de saison, l'équipe a continué à être en progression constante et qui fait qu'aujourd'hui on est aujourd'hui au port de la Ligue des Champions. Je pense que c'est pas le hasard, bien évidemment, parce que si on est là, c'est que les joueurs le méritent, c'est qu'il y a aussi un travail qui est fait notamment de la part des différents staffs. Mais après, bien évidemment, qu'aujourd'hui ça perturbe parce que voir Brest aujourd'hui, ben on s'y attendait pas du tout. Mais encore une fois, on va pas gâcher ce plaisir et surtout minimiser ce qu'on su faire jusqu'à présent les joueurs.
Parce que ça perturbe qui ? C'est vous qui êtes perturbé ?
Non, les gens, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui.
Vous faites allusion à ceux qui disent oui, Brest en Ligue des Champions, c'est pas forcément bien pour le foot français ?
Je vous dis sincèrement, je vais pas m'arrêter à ça parce que honnêtement, je vous dis sincèrement, je m'en fous. Excusez-moi de parler comme ça, je m'en contrefiche. Moi, ce qui est le plus important, c'est ce qu'on fait sur le terrain, est-ce que l'équipe produit. Si aujourd'hui l'équipe est là, c'est que bien évidemment, c'est pas le hasard. Alors on peut toujours reprendre bien évidemment des excuses. Oui, mais Paris n'est pas bon. Oui, mais Lyon n'a pas été bon. Oui, mais c'est Lille qui a mal joué. À un moment donné, moi, ce qui est le plus important, c'est quand on voit une équipe qui joue sans complexe, qui à un moment donné, même quand elle gagne 3-1, elle a envie de marquer un quatrième, et puis parfois, à défaut, de perdre un match. Comme à Rennes, ce week-end, quand on gagne 4-2, on a envie de continuer, et puis finalement, on se fait égaliser, et puis ce qui est beau, c'est qu'on continue à y croire, et que finalement, on gagne 5-4. C'est aussi un petit peu ce qui fait la beauté de cette équipe. C'est qu'elle
ce match-là, c'est votre plus gros kiff de la saison, Grégory, quand vous avez vécu ça dimanche, là, c'est le match qui vous a le plus transporté, ou il y en a eu d'autres avant?
Mais je pense que en termes d'émotion, ce qu'on a connu cette année à Lyon et ce qu'on a connu ce week-end à Rennes, il est difficile pour moi de faire d'avoir plus fort, parce que on est passé par toutes les émotions, on est passé par tous les scénarios possibles. Et à mon avis, forcément, quand on est directeur, ce qui est compliqué, c'est qu'on le maîtrise pas. Et moi, quand je vois mon défenseur à la 94e, mon défenseur droit, aller à l'opposé du terrain pour faire une longue touche, alors que je me dis que déjà prendre un point à Rennes par rapport au scénario, c'est exceptionnel.
Et surtout, ça validait l'Europe, le point.
Et qu'il y a des tarés sur le terrain qui disent non, on va y aller pour gagner. Donc des fois, je me dis, ils sont pas lucides. Mais d'un autre côté, c'est ce qui fait aussi la beauté de cette équipe, c'est que elle joue vraiment sans complexe et comme elle a fait depuis le début de saison. Et c'est ce qui nous anime et ce qui, je pense, rend aussi beaucoup de plaisir à nous, les Brestois. Maintenant, après, pour répondre à ce que vous disiez tout à l'heure, Brest, pas content parce qu'ils vont faire une Coupe d'Europe. Je vous dis, chacun a le droit de donner son avis, chacun a le droit de dire ce qu'il pense, mais nous, aujourd'hui, ce qu'on fait, on ne pourra pas nous l'enlever et personne ne pourra aujourd'hui contredire ce que font les joueurs, parce qu'encore une fois, s'ils sont là, c'est qu'ils méritent et tout simplement, c'est peut-être aussi l'année d'une équipe comme Brest.
Non, mais en fait, Greg, je pense que surtout, parce que moi, dans la première partie de saison, j'ai certainement fait partie, parce qu'à chaque fois qu'il y a une petite équipe qui fait ça, je suis toujours en train de me demander, mais comment font nos locomotives pour la Ligue 1? C'est jamais bon de voir des Marseille et des Lyon qui traînent. Sauf que la force de Brest a été, au fur et à mesure de la saison, d'éliminer cette idée et de dire exactement ce que tu viens de dire il y a deux secondes. T'as rien volé. Vous avez tout mérité, non seulement par le jeu, par la continuité tout au long de la saison, qui fait qu'on a oublié l'idée que certains clubs n'ont pas été à la hauteur et que c'est un petit qui va aller jouer la Ligue des Champions. Hier, pendant le match, j'ai échangé avec Walid, je lui dis, mais franchement, ce que fait Brest, on parlait de la qualité du jeu, hein. Il me sort cette phrase assez drôle, il me dit, honnêtement, moi je m'en fous, qu'ils aillent jouer la Ligue des Champions, même s'ils prennent des raclées contre le Real Madrid, c'est pas un problème. Ils ont largement mérité ce qu'il faut. Et je lui ai dit, ouais, t'es vrai, t'as raison, on s'en fout. Maintenant, faut qu'ils y aillent et qu'ils continuent leur kiff, parce que vous méritez mille fois, avec la qualité de vos productions dans le jeu, ce qui va vous arriver.
Le Real Madrid, ils connaissent pas le doigt rond.
Non, mais après, pour revenir un petit peu sur tout ça, c'est vrai que quand on regarde la qualité intrinsèque de l'effectif, et sans faire injure à mes joueurs, il y a bien évidemment des effectifs qui sont beaucoup plus armés que le nôtre pour pouvoir rivaliser et faire une saison pour être, on va dire, dans l'eau du classement. Mais ce que je pense qu'on a réussi à faire aujourd'hui, c'est cet état d'esprit, c'est ce collectif et c'est ce qu'on a eu aussi comme chance, c'est que nos meilleurs joueurs sont bons au même moment et en même temps, ce qui fait qu'on arrive forcément à avoir très peu de failles. Et on a aussi une chance, c'est qu'on a été longuement épargné par les blessures, ce qui nous a permis d'avoir aussi des joueurs clés tout au long de cette saison pour pouvoir être dans cette continuité de résultats. Mais après, bien évidemment que aujourd'hui, alors c'est pas encore acté parce qu'il y a encore trois matchs. En trois matchs, il y a beaucoup de choses qui peuvent se passer. Mais comme je le disais, si demain on a la chance de pouvoir accéder à cette Ligue des Champions, j'ai envie de vous dire, ça sera encore une autre saison l'année prochaine.
Mais Grégory, si vous finissez cinquième maintenant, vous allez être triste, franchement.
Ben, c'est sûr que ça serait regrettable, même si aujourd'hui on va pas banaliser notre qualification en Europa League, parce que pour le stade c'est historique, parce qu'aujourd'hui personne n'aurait misé une pièce sur le stade Brestois.
Pour rappeler un truc quand même, c'est que il y avait 20 ans, hein, qu'il n'y avait pas eu un nouveau club français en Coupe d'Europe depuis Châteauroux, qui est encore une autre histoire. Il y avait 20 ans, donc il n'y avait pas un club nouveau français
qui l'avait jamais joué.
Qui l'avait jamais joué. Tu veux dire. Exactement. Ouais. Donc c'est un phénomène extraordinairement rare qui arrive à Brest. Quoi.
Généralement, les clubs comme les nôtres, c'est soit par le biais d'une Coupe de France, ouais, ou soit parce que vous terminez 16e ou 7e, et qui fait que il y a une place qui s'est libérée supplémentaire qui permet à ce petit club de pouvoir évoluer dans cette compétition. Mais sinon, c'est très rare qu'un club sur une saison entière arrive à ce niveau. Et quand je vous le dis, c'est pas tiré par les cheveux, je trouve que c'est mérité et que Brest mérite sa place pour être dans le top 6 cette saison, tout simplement.
Jean Baumel, troisième but d'Auxerre.
Ah, quel but et superbe reprise de la part de Ryan Ravelosson à la 70e, et ça fait 3 buts à 1 désormais pour la JOCR qui marque de la distance par rapport à Angers, plus 6 par rapport au 3ème, donc ça sent plutôt bien pour la montée en Ligue 1, même s'il reste 3 journées derrière. Mais là, gros coup d'accélération, 3 buts en l'espace de 13 minutes pour les joueurs de Christophe Pelissier.
Grégory Lorenzi avec nous encore quelques minutes. Grégory, on fait une petite pause d'une minute, 1 minute 30, et on est de retour.
J'ai une question essentielle
avec des questions notamment concernant l'avenir.
C'est là que ça va devenir important, la discussion.
À tout de suite.
RMC, 22h, minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h17, avant de parler du PSG, avant de parler des résultats du week-end en Ligue 1 avec Stéphane Guy et Daniel Riolo, on reçoit Grégory Lorenzi, directeur sportif de Brest, qui, on l'espère pour les Brestois, jouera peut-être la Ligue des Champions l'année prochaine, mais enfin pour l'instant, ils sont sur le podium avec en plus un calendrier plutôt favorable. Hein, on en a parlé hier soir. Tu voulais poser une question sur Eric Roy, Stéphane.
Des 10 dernières années, qu'est-ce qui vous est passé par la tête? Pourquoi lui? Qu'est-ce qui vous avait séduit chez cet homme-là? Est-ce que c'est le fait qu'il était sans staff, donc tout à fait adaptable à votre modèle à vous? Expliquez-nous ça, Grégory, s'il vous plaît.
Non, je pense qu'aujourd'hui, quand j'ai eu la primeur de choisir Eric, beaucoup de gens s'attendaient pas, et ce que je peux comprendre, parce que c'était un entraîneur qui n'avait plus entraîné depuis plus de 10 ans, et que beaucoup de personnes avaient oublié. Au-delà de ça, c'est vrai que quand est arrivée cette réflexion, j'ai voulu aussi prendre mon temps, parce que il était important pour moi de bien réfléchir, parce que je pensais que c'était une décision qui pouvait, on va dire, nuire sur l'avenir ou pas du club. Et pour moi, ce choix a été surtout sur un choix, on va dire, émotionnel, dans le sens où je connaissais très bien mon vestiaire, je connaissais très bien mes joueurs, et je savais de ce qu'ils avaient besoin et non pas l'inverse. Et c'est vrai que pour avoir échangé plusieurs fois avec Eric, et je vais pas non plus faire l'hypocrite, j'avais aussi échangé avec d'autres entraîneurs, pas non plus énormément. Et c'est celui qui me semblait le plus, on va dire, en adéquation avec ce que pouvait avoir besoin mon vestiaire en termes de management, en termes de d'aura, en termes de discussion. Et c'est vrai qu'avec Eric, j'ai senti un discours qui me correspondait par rapport à ça. Et pour moi, je me suis dit, c'est peut-être la personne que j'ai besoin pour, en tout cas, mettre les têtes à l'endroit de mon équipe et repartir du bon pied. Et force a été de constater qu'Eric, c'est vrai que la particularité aussi qu'il soit seul était une condition importante. Mais je pense que c'est quelqu'un qui était aussi intelligent dans cette discussion et qui a compris que il fallait bien évidemment qu'il puisse s'appuyer sur des gens qui étaient bien évidemment en place. Et avec toute cette humilité et bien évidemment cette compréhension qui a permis de se fondre rapidement dans le moule, hein, et aussi capable de faire passer son discours au fur et à mesure pour que les joueurs puissent adhérer, et au-delà de ça, montrer qu'ils étaient capables d'avoir des résultats. Donc c'est vrai que les gens se posent des questions, et je vais pas dire que même moi de temps en temps, mais ça a été un choix qui ça a surpris, et je l'entends.
C'est forcé parce que ça marche au-delà de vos espérances quand même, non? Qu'est-ce qu'il fait mieux que ce que vous imaginiez qu'il ferait?
Au-delà de la venue d'Eric, c'est en général, on pensait pas que ça pourrait marcher aussi bien. Parce que après, encore une fois, c'est tout l'ensemble d'un club, c'est une synergie qui fait que tout le monde va dans la même direction et fait en sorte à ce que ça fonctionne. Mais c'est vrai que Eric a su, par sa qualité de manager, poser un discours qui correspond à ce que souhaitait le vestiaire, tout simplement. Et c'est ce qui fait qu'aujourd'hui, il y a une adhésion totale entre le vestiaire et le staff, entre l'ensemble des gens qui travaillent au club et le secteur sportif. Donc c'est ce qui fait aussi, je pense, notre plus belle réussite. Après, bien évidemment, on souhaite que ça puisse continuer le plus longtemps possible, mais comme vous le savez aussi bien que moi, dans le football, ça, on peut pas le maîtriser, et on verra jusqu'où ça ira, tout simplement.
Ouais, il y avait une dimension Paris aussi, parce que comme ça faisait 10 ans qu'il n'entraînait pas, il n'y avait pas réellement de référence sur lesquelles travailler pour vous dans son recrutement. Je crois pas que, j'en suis même sûr, il n'était pas le choix numéro 1. Et je pense que c'est une discussion presque un petit peu, comme on dit entre guillemets, à bâton rompu entre vous, qui a emporté l'adhésion. Il a rencontré le président. Bon, enfin bon, voilà, l'histoire a remarquablement bien tourné. Tant mieux. Alors, vous avez commencé à introduire le futur, puisque vous l'avez dit, dans le foot, il peut se passer beaucoup de choses. S'il y a Ligue des Champions, s'il y a Europe, Europe il y aura. Eric risque d'être sollicité après la saison qu'il vient de faire, c'est certain. Quand on décroche un petit peu comme Xabi Alonso qui va être champion, qui va continuer avec Leverkusen alors que l'Europe entière le veut, il a dit je vais rester parce qu'il veut aller au bout de cette aventure. Est-ce qu'Eric va faire la même chose? Et après, la deuxième question, c'est le casse-tête qui va se poser à vous. Parce que quand on joue ce genre de compétition, bah d'abord il va falloir prolonger des joueurs, augmenter des joueurs, le budget ne va pas être extensible, il va falloir recruter, les deux matchs par semaine ça crame, on le sait chaque année, beaucoup d'équipes, si en plus il y a le play-off à jouer au mois d'août, moi je sais pas, dans une main vous allez tenir la coupe de champagne dans quelques semaines, mais dans l'autre, vous allez peut-être venir tenir votre
troisième,
tête.
Daniel, il n'y aura pas de
vous
play-off.
Vous allez peut-être tenir la boîte de Doliprane parce qu'il va y avoir beaucoup, le mal de tête, il va être terrible. Hein. Il y a beaucoup de choses à régler, mine de rien.
Alors déjà, pour répondre à votre première question, l'inverse serait illogique. Bien évidemment, quand on a des résultats comme à notre coach, il serait tout à fait logique qu'il soit sollicité, et ça, au même titre qu'un joueur. On est obligé de pouvoir être confronté à ce genre de choses. Et puis, bien évidemment, on doit l'affronter et on doit effectivement aussi l'assumer et le gérer. Donc, pour moi, ça, c'est pas aussi un sujet parce qu'Eric est encore sous contrat avec nous. Et on aura, je pense, le temps de l'évoquer et de discuter pour voir ce qu'il y a le mieux pour le projet du club. Déjà, ça, c'est important de pouvoir le dire. Et secondo, bien évidemment, qu'on sait très bien que quand on est Brest, quand on n'aura pas un budget énorme, jouer une Coupe d'Europe et jouer bien évidemment notre quotidien, le championnat, ce qui sera le plus important, c'est de se dire comment on va réussir à réussir à cet objectif qui sera bien évidemment aussi pour nous le maintien prioritaire. Alors au niveau des joueurs, il y aura forcément des joueurs qui seront sollicités, forcément des joueurs qui voudront aussi partir parce que ils estimeront que aller dans un club plus costaud, ça serait peut-être logique pour eux pour l'évolution de leur carrière. Mais encore une fois, c'est pas parce que des joueurs seront sollicités que nous on doit aussi se démunir, parce qu'il est important que quand on a un projet sportif, on a envie aussi de le stabiliser. Donc là-dessus, ça sera pas non plus simple pour tout le monde. Mais concernant aussi le projet sportif, comme je le dis, économiquement, on va pas faire n'importe quoi. Parce que moi, c'est pas non plus l'intérêt d'ouvrir les vannes, de dépenser le peu d'argent qu'on aura gagné par rapport à une qualification en Coupe d'Europe, de donner des salaires mirabolants. Ça sera plutôt de continuer à appuyer sur le projet qu'on met en place maintenant depuis quelques années. Pourquoi ? Parce que si aussi vous faites venir des joueurs qui n'ont pas participé à cette aventure et qui vont venir chez vous uniquement parce qu'ils viendront jouer la Coupe d'Europe, mais quand vous allez jouer le week-end sur des matchs au couteau, il va falloir mettre le bleu de chauffe, peut-être que ces joueurs, vous les verrez moins. Ah, et peut-être que si vous ne faites pas la Coupe d'Europe l'année d'après, ces joueurs voudront partir.
Comment on fait pour choisir ça ?
Justement, pour moi, c'est de rester dans... Pour moi, c'est de rester dans le même modèle de recrutement, c'est-à-dire prendre des joueurs qui ont aussi un état d'esprit qui correspond à ce qu'on fait depuis le début de saison, depuis ces dernières années, pardon, prendre des joueurs qui sont aussi revanchards, prendre aussi des jeunes qui auront besoin de se développer, que peut-être en venant chez nous, ils auront plus de possibilités de s'exposer pour que derrière ils puissent avoir un step différent. Donc ça, c'est les choses qu'on met en place maintenant depuis des années. Et pour moi, il faudra pas déroger à ce genre de choses, mais il n'empêchera pas que de temps en temps, il y aura peut-être besoin d'avoir des joueurs qui apporteront un plus, et ces joueurs qui apporteront un plus, ça sera à nous de pas se tromper là-dessus. Quand je parle de ces joueurs qui apporteront un plus, ça veut pas dire qu'il faudra prendre 30 joueurs dans l'effectif, parce que ça sera aussi ingérable. Par contre, augmenter le nombre qualitativement des joueurs qui pourront faire la Coupe d'Europe et le championnat, ça, ce qui est le plus important, et non pas le nombre pour dire avoir des joueurs pour avoir des joueurs, parce que sinon ça va être ingérable. Et dans votre cohérence et dans votre équilibre de construction d'effectifs, ça pourra faire foutre un bordel. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre beaucoup de recul, il faudra analyser tout ça et bien réfléchir pour bien évidemment faire les meilleurs choix possibles. Mais en tout cas, je peux vous dire que ce sont des choses auxquelles on,
on y réfléchit déjà et on pense déjà à savoir dans quelle direction on va aller, tout simplement.
Justement, concernant le mercato, alors il y a certains joueurs qui pourraient partir. On lit partout que Brassier pourrait s'en aller. Il y en a d'autres qui sont en fin de contrat. Est-ce qu'il y a des joueurs que vous souhaitez absolument retenir? Je sais pas, je pense à Mounier, par exemple. Est-ce que vous avez déjà commencé à bosser là-dessus? Et est-ce que vous confirmez pour Brassier qu'il devrait a priori s'en aller?
Alors, aujourd'hui, actuellement, le seul qui est sous contrat et qui a un bon de sortie, c'est Lyon Brassier, parce que voilà, ça fera 4 ans qu'il a évolué chez nous, et autant lui que nous, on estime que il a peut-être besoin d'un projet différent pour continuer sa progression. Maintenant, concernant le reste, bien évidemment, nous on souhaite garder nos meilleurs joueurs, c'est ce qui est logique. Après, on sait que ces meilleurs joueurs-là seront aussi sollicités, mais après, encore une fois, on a le droit de d'avoir nos arguments et de pas non plus se laisser démunir. Et concernant Steve, ça fait maintenant 4 ans qu'il est chez nous. C'est un joueur important, c'est un leader de groupe. On lui a aussi, bien évidemment, fait part de le conserver. Steve a une proposition entre les mains. Aujourd'hui, bien évidemment, ce qui est normal en étant en fin de contrat, qu'il puisse aussi se laisser la possibilité de réfléchir. Mais je pense que voilà, je souhaite que Steve continue l'aventure avec nous. Mais en tout cas, on travaille à ce que dès à présent, à ce que on puisse dessiner notre effectif pour que la saison prochaine.
Vous avez réussi à garder cet hiver. C'était avec la promesse qu'il puisse partir cet été prochain ou pas?
Non, il n'y a jamais eu de promesse de fait entre le club et Pierre Lesmélou. Nous, aujourd'hui, c'est vrai que il a été difficile et on a compris, bien évidemment, quand il y a un club qui est supposé être supérieur, souhaite avoir un joueur en mettant des moyens importants et que même le joueur, à un moment donné, puisse être aussi perturbé par rapport à ça, ça peut se comprendre. Mais nous, notre volonté était aussi de se donner, on va dire, les éléments et les moyens de pouvoir faire notre meilleure saison possible. Et force est de constater qu'aujourd'hui, ben, notre décision a été bonne. Oui. Parce que dans le foot, il n'y a pas que l'argent. C'est vrai que l'argent, il est important. Mais à un moment donné, on a le droit aussi d'avoir un projet sportif et de montrer qu'on a le droit de pouvoir rêver. Donc maintenant, l'été, c'est différent. Il faudra bien évidemment voir ce que le joueur souhaitera faire. Mais nous, aujourd'hui, notre volonté, bien évidemment, elle est de vouloir conserver Pierre au même titre que nos autres bons joueurs du club. Et après, entre un discours que je peux vous porter aujourd'hui et la réalité qu'il y aura cet été, ça sera peut-être différent. Mais en tout cas, la volonté, elle est bien là.
Le stade, faisons un point parce que vraisemblablement, le club et la ville de Brest veulent se battre pour pouvoir recevoir la Coupe d'Europe au stade Francis Leblay. Là, un petit point, là, est-ce que les choses évoluent favorablement ou pour l'instant c'est stand-by? Qu'en est-il?
Non, mais c'est vrai que il y a quelques semaines de ça, des membres de la commission de l'UFA est venu nous rendre visite afin de faire un point et un état des lieux sur le stade Francis Leblay. On savait que bien évidemment c'était peut-être des réajustements, des réaménagements à faire si le club évoluerait en Coupe d'Europe la saison prochaine. Donc sans surprise, on a reçu une première notification qui nous disait qu'il était forcément dans cet état, à cet instant-là, pas possible de pouvoir jouer une compétition européenne. Mais bien évidemment, avec l'aide de la municipalité et toutes les composantes du club, on y travaille pour qu'on puisse, je le souhaite et je l'espère, faire nos premiers matchs en Coupe d'Europe à Francis Leblay. En tout cas, on va tout mettre en place et en œuvre à ce que ça puisse se réaliser et j'espère que ça sera le cas. Mais bien évidemment, pour l'instant, c'est encore trop tôt pour pouvoir se prononcer, mais sachez qu'on y travaille d'arrache-pied.
C'est possible en tout cas, les rectifs, les modifs qu'ils demandent,
5000 ou pas.
Les modifs, il y a moyen de les faire, où on peut s'adapter. C'est pas genre le constat, bon, on n'y arrivera jamais parce qu'il n'y a pas les structures, parce qu'on peut pas. Il y a la possibilité de répondre à leurs attentes.
Dans la vie, tout est possible. Maintenant, entre la possibilité et réussir, c'est encore un autre problème parce qu'on n'est pas seul décideur. Il faut aussi savoir qu'on est confronté à une commission qui est tout à fait différente que ce que peut faire aujourd'hui dans le championnat français. Mais en tout cas, ce que je peux vous dire, c'est qu'on va essayer de se donner les moyens pour pouvoir jouer à Francis Leblay. Ce qui est sûr,
Envoyez visiter les infrastructures de Paris 2024, Place de la Concorde en ce moment, par exemple, pour qu'ils voient qu'il peut y avoir des praticables qui accueillent des grands événements sportifs internationaux.
Ce que je peux vous certifier, que jouer devant 5000 personnes, ça ne sera pas possible pour nous. On ne l'acceptera pas. Voilà.
Bah oui, ça voudrait dire une seule tribune.
Oui, bien sûr. Après le reste, ça sonne vide. C'est pas le même truc.
Non, par rapport à la communauté de supporters, ce serait.
Ouais, juste, on a pas tant parlé de transfert que ça. Je sais pas s'il nous reste beaucoup de temps, mais vu que j'adore ce joueur, je voulais en parler. Le petit Doumbia, il vous appartient pas, si je me trompe pas.
Non.
Et il y a matière à faire en sorte qu'il reste.
Écoutez, il y a déjà eu des discussions qui avaient été entamées dès cet hiver avec nos amis et moi. Voilà. Il y avait une volonté commune. On avait décidé, bien évidemment, de se laisser un petit peu de temps pour pouvoir continuer à échanger et essayer de trouver une solution. C'est toujours une volonté de notre part. Je pense que c'est aussi également celle des Rémois. Mais pour l'instant, je ne peux pas vous certifier qu'il sera à Brestois l'année prochaine, mais on y travaillera pour que ça soit le cas.
Grégory Lorenzi, merci beaucoup. Et on vous souhaite une bonne fin de saison, évidemment, sur le podium. Hein.
Deux victoires en trois matchs, c'est ça l'objectif, le projet, Grégory?
Écoutez, c'est déjà gagner le prochain match. Ça, pour nous, ça sera important. Et puis après, on avisera. Mais voilà, comme vous le disiez tout à l'heure, enfin, pour répondre un petit peu à ce que vous avez dit, oui, un calendrier, comme je dis, dans les derniers instants, tous les matchs sont compliqués. On le voit très bien. Et il va falloir la jouer jusqu'au bout parce que rien ne sera facile.
Merci beaucoup. À très bientôt dans l'after.
Merci à vous, au plaisir, bonne soirée.
Bonne soirée.
Bonsoir.
Point Ligue 2, mon petit Jibo, Dunkerque, Auxerre.
3-1 pour la GIA. Il reste 30 secondes sans le temps additionnel et je peux vous dire qu'ils sont bien partis forcément les Auxerrois puisque ils ont quand même 6 points d'avance sur le 3ème avec un goal à virage de +31 et +12 pour Angers. Donc 6 en reste là, une victoire sur les 3 derniers matchs et ça va le faire. Oui, carrément, on attend le temps additionnel, on va pas s'enflammer hein. Des retournements de situation on a déjà eu, mais en tout cas franchement sur ce qu'ils ont montré ce soir, franchement qu'est-ce que ça joue bien du côté de la GIA, c'est beau à voir. 3-1 et 5 minutes de temps additionnel.
Et pendant ce temps-là, 2-2 entre le Barça et Valence, égalisation de Barcelone il y a quelques instants.
Lewandowski
et le PSG au programme dans quelques secondes. Daniel va en parler. 12e titre de Paris. Comment classer ce titre dans la litanie de trophées du Paris Saint-Germain? On entendra également Christophe Dugarry qui donne son avis. Le débat est lancé dans quelques instants. Supporters parisiens, on vous attend au 32-16.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
22h36, Stéphane Guy est là, Daniel Riolo est là. 2-2 entre le Barça et Valence, toujours 3-1 pour Auxerre à Dunkerque. Jibo nous appelle dès que c'est fini. Le PSG est champion pour la 12e fois. On n'en a pas parlé hier soir après le match de Marseille parce que on voulait rester sur les matchs du jour. Le PSG c'était avant-hier, même si on a su dire qu'ils étaient champions évidemment. Mais faisons-le ce soir parce que c'est toujours intéressant de mettre en perspective le titre 2024 avec les autres. Déjà c'est le 12e, donc c'est le record évidemment en France. Hein. Saint-Etienne en a 10, Marseille en a 9. Enfin, selon les versions.
Le 10e pour le Qatar, pour le PSG Qatar. Ouais.
Selon le club à Marseille, il y en a 10.
Il y en a
9. Celui de 93.
Mais il y a un truc qui s'appelle la loi. Hein. Ouais. On fait pas.
D'ailleurs, certains Parisiens disent ouais, mais celui de 93, du coup, il est pour nous vu qu'on était.
Absolument.
Mais c'est ce qui aurait dû se passer. Absolument. Mais si Canal à l'époque n'avait pas renoncé à ça.
S'il n'y avait pas eu une énorme magouille politique, économique, évidemment que c'est comme ça. Quand le premier est disqualifié, c'est le deuxième qui.
On rappelle aux jeunes qui nous écoutent, qui savent peut-être pas cette histoire qui appartient effectivement à l'histoire de la Ligue 1. C'est que donc Marseille a été déchu de son titre. Le deuxième n'a pas été sacré.
À cause de l'affaire MVA,
je rappelle. Le deuxième n'a pas été sacré, qui était le Paris Saint-Germain. Et en plus, le Paris Saint-Germain a refusé de disputer la Ligue des Champions. Donc c'est Monaco qui a joué la Ligue des Champions 93.
Pour des raisons
94.
Politiques et économiques.
Et ils sont allés, je crois, Monaco, si je me trompe pas, en demi-finale de cette compétition.
Et Paris n'est pas le seul à avoir refusé à ce moment-là, puisque tous les autres, lors d'une réunion. Tiens, un soir, si vous voulez, je vous raconte cette histoire, parce que le livre écrit avec Jeff Perez date de 2003 maintenant. On avait révélé tout ce qui s'était passé dans toutes les réunions, où, évidemment, les autres clubs derrière le PSG avaient également refusé la place en Ligue des Champions.
Par Monaco.
Ben, c'était tombé sur Monaco parce qu'on leur avait dit, écoutez, vous êtes le club neutre, vous êtes le club neutre, vous êtes les Suisses de l'histoire, tout le monde s'en fout, donc vous allez y aller.
Ils avaient fini combien les championnats Monaco?
Ils doivent, je sais troisième, pas, ils sont derrière. Non, je sais pas si troisième. Attends, il y a Auxerre, il y a Nantes dans l'histoire. Regarde, mais en fait, je sais plus exactement. Bon, mais dans la réunion, tout le monde s'est planqué. Elle dit, il est hors de question qu'on remplace l'OM parce que ça, il y a trop d'impact émotionnel. À l'époque, l'OM est tellement médiatique que tout le monde renonce. Le PSG, c'est un mélange entre le refus, c'est un mélange entre Jacques Chirac et Canal+. Canal+, qui avait peur pour ses abonnés du sud de la France, et Chirac pour des intérêts présidentiels.
Monaco est troisième, c'est
troisième. Même nombre de points que PSG.
Ouais.
C'est logique.
Il y avait qui finalement. Après il y avait
ensuite, Bordeaux. Derrière, il y avait Bordeaux, Nantes,
Bordeaux, Bordeaux refuse complètement. Giroud se dit que pourquoi pas.
Strasbourg était 8e, on ne nous a pas demandé.
Non, on n'a pas demandé. Non, on a pas demandé. Mais c'est assez passionnant ce qui s'était passé à ce moment-là et comment la Ligue a décidé finalement de dire à Monaco, hop, on y va et puis c'est tout. Et surtout la force avec laquelle le PSG ne voulait surtout pas entendre parler de ça. Et Chirac, Canal qui disent c'est hors de question, on n'y va pas.
Allez,
je pourrais raconter cette histoire un soir.
C'est fini à Auxerre, Djibo.
Ah. À Dunkerque, c'est fini. 3-1 pour les Auxerrois. Avec, on rappelle rapidement, Yacine, l'ouverture du score pour Dunkerque, 20e. Égalisation de Sinayoko, Courté contre son camp, 62e. Ravelosson, 70e, qui scelle cette rencontre à 3-1. Grosse performance des joueurs de la JOCR qui sont tout proches d'aller, de retourner en Ligue 1 après une saison, pour l'instant. Bon travail, forcément, de Christophe Pélissier. Bonne soirée, les amis.
Faut que tu rappelles Gérald Matic, là. Il a pas trop aimé ton manque de respect tout à l'heure.
Oui.
Ah, écoute. Écoute, c'est vrai.
Jingle, Daniel.
Eh ouais, l'arbitre, s'il avait fait ça. Et puis nous, si on avait fait ça. Eh bien, hein, et si un pigeon était venu chier sur le ballon au moment où Samson l'avait tapé, eh ben, il aurait glissé son pied dessus.
Donc, tu voulais...
C'est une imitation à une époque.
Tu voulais donc...
On sentait l'acteur. L'acteur était là, déjà.
Prendre un peu de recul sur ce titre-là pour l'analyser. Le 12e.
Pas tant de recul que ça, parce que au final, écoute, ce que beaucoup de supporters du Paris Saint-Germain ont appelé de leur vœu ces derniers temps est finalement arrivé, à savoir qu'un titre, quand on a vu les deux derniers, qu'un titre fasse à ce point plaisir. C'est le titre pour moi de la simplicité retrouvée, d'un club retrouvé, d'une osmose et d'un lien à nouveau fort entre supporters et équipe. Je sais pas, parfois j'ai l'impression qu'on a oublié ce qui s'est passé ces derniers temps. Le titre pas fêté, une victoire contre l'OM pas fêtée, la banalité effectivement qui entourait les titres de champion du PSG, ces fins de saison où dès le mois de mars tout était fini, le ticket place ou marketplace ou je sais plus comment ça s'appelait là, où des supporters du PSG ne venaient même plus au stade et faisaient tout pour revendre leur billet tellement ils avaient même plus envie de voir le spectacle qui était proposé. Moi en tout cas j'ai pas oublié. C'était pourtant des choses très simples, hein, qu'on voulait, que les supporters du PSG voulaient, que même le monde du foot en général, parce que j'ai remarqué que quasiment tout le monde a félicité le PSG, mais à féliciter la fraîcheur qui entourait l'équipe et la façon dont ce titre a été acquis. C'est pas arrivé tous les ans. Parce que la politique de star dérangeait tout le monde, parce que l'attitude des joueurs, l'arrogance de certains, ce que l'équipe dégageait, c'était négatif. Et si même plein de supporters du PSG ne l'aimaient pas, c'est dire si les autres l'aimaient encore moins. Là, j'ai senti beaucoup moins de cette espèce de rejet qui pouvait virer à la haine parfois chez les autres autour de ce club. Je l'ai ressenti moins fort tout au long de la saison parce que tout simplement cette équipe, ce club ont ressemblé à un club de foot et à une équipe de foot. Voilà. Avec un président, bon, comme d'habitude, on ne peut pas dire qu'on le voyait beaucoup, on l'a peu vu et, eh bien, il est peut-être arrivé, il est arrivé au bout du process. Initié en 2017, parce que, évidemment, qu'il y avait eu déjà l'idée dès 2013, dès 2012 de prendre des stars, des joueurs connus, mais avant 2017, ça ressemblait quand même à une équipe. Malgré tout, il y a eu des déceptions d'Europe, mais rien à voir avec le virage pris en 2017 suite à, parce que tout finalement était né suite à la remontada et à ce choc psychologique qu'il avait fallu encaisser et qui avait conduit à dire on va mettre l'oseille parce qu'en finalement c'est une sorte de combat personnel de ne s'être jamais remis de ce truc-là. En gros, on va flinguer le Barça, on va leur prendre Neymar et puis quelques années après, on a enfoncé le clou définitivement, on va même aller leur chercher Messi parce que finalement ils se sont ruinés suite à 2017. Il y a eu cette espèce de combat, cette constitution d'équipe qui ne ressemblait à rien. Vous rendez compte des joueurs qui sont arrivés dans ce club à un moment, on prenait un gardien Buffon parce qu'il fallait câliner Verratti, on prenait Sergio Ramos pour son expérience. On a pris Dani Alves pour surveiller Neymar. On prenait une star et on prenait la nounou à côté. Mais on a atteint un délire incroyable dans ce club-là. Et finalement, bah peut-être, alors oui, mieux vaut tard que jamais, mais que d'années perdues pour enfin arriver à Nasser Al-Khelaifi qui a dit, bon allez, on va essayer, je ne sais même pas si c'est lui qui se l'est dit, mais bon, on va lui accorder le bénéfice du doute. On va rentrer dans quelque chose de plus simple. Déjà, moi je trouve que on dit pas assez quand même, mais le travail de Luis Campos a pas été mal, mine de rien. Il y a certains joueurs, pour moi le joueur de l'année aujourd'hui, c'est Vitinha. Je sais pas, j'ai lu dans la presse ce matin que c'est un coup d'Antero Henrique. Qu'est-ce que c'est que cette idiotie? Non, c'est Luis Campos, j'ai les documents, j'ai la preuve que c'est Luis Campos qui avait dessiné cette équipe et qui a pris Vitinha. Au départ d'ailleurs, il est dans la même case quand ils ont dessiné l'équipe que Verratti, comme si ça devait être sa doublure. Donc évidemment que c'est un coup de Luis Campos, c'est un très bon coup d'ailleurs. Faire partir les stars, c'était d'abord en plus une idée de l'année d'avant. Finalement, ils n'ont pas pu faire partir Neymar à ce moment-là. Ils ont dû continuer une année de plus, qui a été une année absolument terrible. Ça a été la pire l'année dernière, entrecoupée par la Coupe du Monde. Là, ça a été abominable. Le choix d'un entraîneur à qui on a donné tous les pouvoirs. Voilà, enfin, il s'en est parfaitement bien tiré. Je rappelle quand même, et il faut pas le nier, on lui a enlevé toutes les pommes pourries du panier. C'est toujours plus facile de travailler quand on enlève toutes les pommes pourries du panier, parce que oui, moi je maintiendrai toujours qu'Emery et Tourelle ont été d'excellents coachs, mais qui n'ont pas été soutenus, qui n'ont pas pu travailler comme il faut, d'ailleurs eux-mêmes l'ont dit. Luis Enrique a fait du bon travail. La saison, moi je la trouve parfaite, parce que vraiment, quand un public aime autant son équipe et quand une équipe rend autant à son public, c'est-à-dire on peut pas demander plus que ça. Maintenant, il y a le bonus. Il y a cette phrase d'Emery dans l'interview qui est ressortie là sur les réseaux, je l'ai réécoutée. Oui, c'est vrai, un jour, ça va tourner. Et c'est en train de tourner parce que tout le monde travaille bien. C'est en train de tourner et oui, tout le monde y croit. Depuis le tirage, je trouvais que parfois c'était un peu prétentieux de le présenter comme ça. C'est le fameux tableau, parce que dans le passé, cette prétention, elle a joué des tours au club. Bah oui, évidemment que c'est un bon tirage Dortmund. Voyons voir maintenant s'ils vont profiter de ce bon tirage. Oui, à cette histoire de planète alignée, moi je suis pas tellement dans l'irrationnel, je crois pas trop à ces choses-là, je crois plutôt au travail bien fait. L'équipe elle est en forme, Dortmund c'est prenable, c'est une équipe on sait jamais réellement de quoi elle est capable, mais j'ai envie de croire que le PSG est au-dessus. Tout a été super bien fait jusque-là, maintenant c'est le bonus. Le bonus c'est d'aller au bout de cette histoire. Écoute, je crois que tout le monde y croit maintenant.
Dans un instant, l'avis de Stéphane. Est-ce que Stéphane est d'accord avec Daniel? Le suspense est total, vous allez le savoir dans quelques secondes.
T'attends.
RMC jusqu'à minuit, l'afterfoot.
Gilbert Bribois.
Il est 22h49, Daniel Riolo est là, Stéphane Guy également. Le PSG, son 12e titre, Daniel donc a donné son avis, il a été extrêmement positif.
D'ailleurs, je le compléterai parce que j'ai oublié des choses essentielles à dire.
C'était déjà très long.
C'est pas grave, Stéphane va parler et puis je pourrai ajouter des choses.
Pas une minute.
Vas-y.
Non, à toi. Stéphane, est-ce que tu es d'accord? Parce que tu as entendu dans la bouche.
Je pense qu'il faudrait être de mauvaise foi pour ne pas valider la première partie du propos de Daniel. Et c'est vrai que ce qui était problématique avec le Paris Saint-Germain l'an passé, en tout cas, je parle de ceux qui aiment ce club et qui se passionnent pour ce club, ce qui est loin d'être l'intégralité de la France du football. Mais les passionnés étaient effectivement en rupture avec leur propre club. C'est ça qui posait le problème.
On a oublié tout ça.
Et là, de ce point de vue-là, c'est une énorme réussite la saison qui s'écoule.
Et on a oublié tous ceux qui pleuraient le départ des stars. Qu'est-ce qu'on va faire sans Neymar? Mais si, on n'aurait jamais dû.
Ça,
Verratti,
je pense qu'on avait
horrible.
Été quelques-uns, toi et moi, Daniel notamment, à expliquer quand même qu'il y avait un avenir au-delà de Neymar et de Messi. Je suis moins certain qu'il y aura un avenir au-delà d'Mbappé, mais c'est un autre sujet. Donc de ce point de vue-là, c'est vrai que c'est un beau titre. Après, sur la performance sportive objective du Paris Saint-Germain, est-ce que c'est une équipe qui, moi, sportivement, cette année, m'a impressionné? Est-ce que je me suis régalé à les voir jouer en Ligue 1? Est-ce que c'est un grand champion de France qui va m'avoir marqué l'esprit comme Monaco m'avait marqué l'esprit, comme le PSG de Tourelle, par exemple, m'avait marqué l'esprit? Moi, je dirais pas ça. C'est, par exemple, les chiffres sont là. 20 victoires, 10 matchs nuls, une défaite. Bon, bah, pour un Paris Saint-Germain, toujours pareil, hein, faut rapporter la performance sportive au budget. Quand vous avez, à vaincre sans péril, on triomphe sans gloire. Quand vous avez 5 fois le budget de votre premier concurrent, c'est toujours plus facile. Quand vous dépensez l'été dernier pour une simple saison de transition, vous avez la capacité à sortir 400 millions d'euros et que vous avez des joueurs à 90 millions d'euros sur le banc, etc. Ça relativise plein de choses. Mais par contre, sur l'esprit qui a accompagné la saison parisienne, sur sur ce qui s'est passé en interne au club, sur le fait que le président semble désormais présider, l'entraîneur entraîne, le directeur sportif, on le voit plus sur le bord de la touche à attendre les arbitres à la fin des matchs, etc. Il y a eu une remise à niveau qui effectivement est très salutaire et qui explique sans doute aussi le bon parcours en coupe, même si évidemment les parcours de coupe sont beaucoup beaucoup liés au tirage au sort, hein, que vous preniez le Real Madrid en huitième de finale de Ligue des Champions ou la Real Sociedad, c'est pas le même sport.
Oui, mais tout ça, honnêtement, tu fais bien de le dire, mais cette histoire de tirage que t'as pris machin à ce moment-là, c'est comme les chiffres. En fait, je vais te dire pourquoi je m'en fous. Parce que les autres années, l'oseille, tu le dépensais.
Ouais, bien sûr, monsieur.
L'oseille,
oui,
il a toujours
été. Ça n'a jamais été un problème, ça, c'est
sûr. Et en fait, qui est l'oseille ou pas l'oseille ou comme dirait, de toute façon, ce que dégageait l'équipe, le lien avec les gens. Cette équipe faisait honte à beaucoup de supporters du PSG. Non,
parce que, d'ailleurs, donc, parce que toi, tu restes fixé sur les 2-3 dernières années, mais il y a eu des équipes du Paris Saint-Germain depuis impressionnantes par le jeu. Moi, j'ai vu beaucoup de matchs du PSG de Laurent Blanc. C'est une équipe qui, chaque samedi, c'était un récital.
Oui, la première.
Certaines périodes d'Emery, c'était un récital. D'ailleurs,
oui, je suis d'accord avec ça.
J'ai des stats sous les yeux assez intéressantes sur le nombre de victoires.
Oui, mais
par entraîneur. Un entraîneur comme Tourelle, moi ça va, moi j'en reviens pas. Hein. Tourelle en 2020, donc l'année où le Paris Saint-Germain est en finale de Ligue des Champions.
Mais c'est une année tronquée.
Ouais, bon, mais okay, il gagne 80% de ses matchs, oui, toutes compétitions confondues.
Oui. Mais non, mais le but n'est pas de dire. Hein, c'est, à la limite,
Laurent Blanc, il y a des années à 75% toutes compétitions confondues.
Il y a eu des belles périodes. Ouais. Sauf que comme il y avait une rupture, comme le club a connu une sorte de d'avancée vers le ras-le-bol général, de dégoût. Tu te rends compte, c'était un dégoût pour les propres supporters. Donc, le lien qui a été recréé cette année avec, c'est comme vrai, tu l'as dit, président, et moi, j'enlève rien à personne. Mais on est obligé de dire non, que tout
les joueurs symboles de la saison parisienne, que tu prennes Vitinha, que tu prennes Zaïre Emery, qui est évidemment
un puissant l'impression que des mecs étaient là pour le club, voilà, tout donné toute l'année. Et ça,
même Dembélé, voilà, c'est des garçons, ça, que t'as envie pas d'aimer.
Tout le monde, voilà, t'as envie
Mbappé
d'aimer.
Mbappé a marqué un nombre incroyable de buts.
Et alors, et ce que j'ai oublié de dire, c'est que on avait toujours des affaires. Rappelons quand même l'époque, justement, dans la fin de cycle d'une belle époque qui est celle de Blanc, t'as l'affaire Aurier qui a quand même pourri le quart de finale contre Manchester City, tu as eu des affaires sans arrêt quand t'avais les stars, c'était à chaque fois ingérable tout ce qui se passait dans le vestiaire. Cette année, il y a eu une affaire en deux temps, c'est-à-dire l'affaire Mbappé. Il y a eu l'été avec Loft, sortie de Loft. Bon, d'abord on a écarté qui il fallait écarter, ça a été bien fait. Puis l'affaire Mbappé, se rendre compte qu'il allait rester. Loft, sorti de Loft. Ça aurait pu faire une crise. Ça a été plutôt bien géré. Ce qui s'est passé suite à son annonce, sorte de bordel, énormément de polémiques, au final, plutôt pas mal géré. Et moi, j'aimerais quand même dire à tous ceux qui l'ont taillé pendant des semaines et des semaines, ben pardon. Mbappé, tout milliardaire, égocentrique, et moi je suis le premier à dire qu'on peut ne pas aimer sa personnalité, puisque moi je me donne le droit de ne pas aimer la personnalité de Luis Enrique. Toujours est-il que ces deux personnalités-là, l'une et l'autre, ont œuvré pour le bien du club. Que Mbappé, qui adresse plus la parole à Nasser El-Khelaifi, il y a une rupture et tout, ce gars-là, il y a d'autres joueurs, d'autres contextes, ça aurait pu être le bordel. Parce que Mbappé, il a des amis dans le vestiaire. On dit toujours, c'est pas un joueur qui peut foutre la merde et tout. Non, c'est comment tu tisses tes liens dans le vestiaire. Si tu fais la gueule, ça veut dire que ton pote peut faire la gueule aussi. Il a quand même des amis dans le vestiaire. Il est pas isolé, le gars. Eh bien, non. Ça n'est pas arrivé. On peut quand même lui dire aussi, on peut lui reconnaître que le gars, il a continué à enquiller les buts. Il a continué à marquer et il est en rupture. Mais on peut être persuadé d'un truc. C'est que jusqu'au bout, jusqu'à la finale, s'il y a finale, il a eu un passage à vide d'un mois. Néanmoins, il sera là, à fond, et il va jouer à fond.
Je rebondis sur ce cas-là.
Et cette affaire-là, qui aurait pu être un enfer à gérer, eh ben, ça a été bien géré par tout le monde, et même par le joueur.
Il y a quand même une incompréhension, moi, sur le cas Mbappé. Bon, il y a un truc que je... Donc, il en est, j'ai les stats sous les yeux. Hein. Il a marqué 43 buts cette année. Dans toute sa carrière, il n'a jamais fait mieux. C'est un record, et la saison n'est pas finie.
Et pourtant,
t'as, on va dire, allez... une bonne moitié des supporters de PSG qui ne veulent plus entendre parler de ce mec, qui est le meilleur joueur de football actuellement dans le monde.
Ils se rendent pas compte que ça aurait pu être un énorme bordel et que ça ne l'a pas été.
Et j'ai beau entendre les arguments des uns et les autres, je comprends pas.
Un autre élément dans ce sens-là, Gilbert, c'est que quand on prendra un peu de recul, parce que là tout est. Oui, mais les supporters, les cœurs sont vifs, ils sont.
On est dans une fin de saison tellement passionnée avec l'espoir de la Coupe d'Europe.
Ils sont passionnés en permanence. À un moment donné, ils vont prendre un peu de recul, puis ils vont se rendre compte que Mbappé aura passé 7 ans ou 8 ans à Paris, 7 ans. Et que, quand même, sur les 5 dernières années.
C'est sa 6e saison, ça fera 7 ans, quoi.
Ça fera 7 ans. Sur ses 5 dernières années, alors c'est pas que lui évidemment, c'est jamais qu'un seul joueur de toute façon une équipe de foot, mais Paris est quand même 3 fois en demi-finale de Ligue des Champions.
Dans sa 7e saison, pardon.
Ouais. Ouais. Donc sur les 5 dernières saisons de Ligue des Champions, ils ont quand même, avec Mbappé quand même en fer de lance, en attaquant
volet. Il paraît qu'il a rien fait dans les gros matchs, au Bayern il a rien fait.
Ils font ad minima, et peut-être, peut-être qu'il y aura une deuxième finale, peut-être même qu'ils vont la gagner. Hein. Ils auront aussi passé un cap malgré tout avec Kylian Mbappé, même s'il y a aussi des illusions avec lui en Ligue des Champions.
Ah tiens, écoutez Christophe Dugarry, qui tout à l'heure a donné lui aussi son avis sur ce titre parisien, et ensuite on continuera le débat avec vous les supporters au 32-16.
Je pense que cette saison, ouais, ça sera un virage. Pour l'RQSI, je pense que ça sera un virage. Voilà, parce que je pense que les dirigeants ont enfin compris que tu pouvais gagner des matchs, que tu pouvais être spectaculaire, que tu pouvais attirer ton public, que tu pouvais créer quelque chose, un groupe, un environnement, un univers, un esprit club avec moins de stars. Voilà, déjà. Alors, ils ont certainement trouvé l'entraîneur qui leur convenait à ce sujet. Voilà, ça a parfaitement. On a beaucoup moins vu Nasser dans les médias.
C'est vrai.
Je pense qu'il a laissé travailler son groupe, il a laissé travailler son entraîneur. Voilà, donc moi, je pense qu'il s'est passé des choses tout au long de cette saison. Je pense que ce sera un tournant. Après, tu peux pas empêcher les gens de se dire, voilà, dans une année soi-disant de transition, et qu'il était certainement. Je veux bien dire la même chose. C'est quand même un club qui a recruté pour 400 millions dans une année de transition. Mmh. Donc, gagner la Ligue 1, même s'il faut le valoriser, c'est le minimum.
Voilà pour Duga.
Moi, je suis en total accord avec ce que dit Duga. Je répète que les chiffres, moi, j'ai pas envie de mettre l'oseille parce que l'oseille, il y avait avant et beaucoup de gens n'aimaient pas l'équipe. C'est pas ça qui fait qu'on aime l'équipe ou pas l'équipe. C'est l'attitude, c'est ce que tu dégages. Et il l'a dit aussi, Christophe. Il y a eu. À un moment, les gens ont compris dans ce club que, ok, oui, il y avait des marchés à conquérir, oui, il y a des boutiques à ouvrir à New York, oui, c'est bien quand t'as Messi, Neymar, parce que effectivement, ça fait rentrer beaucoup d'oseille dans le club, mais ton image se dégrade auprès de ta base.
Oui, et n'oublie pas,
la base était n'en pouvait plus de voir cette équipe.
Et n'oublie pas que tu continues, tu as dans les rangs du Paris Saint-Germain aujourd'hui. Il faut quand même le rappeler. Parce que moi, celui que je considère moi comme le meilleur joueur du monde, actuellement, Camille, 47 buts. C'est pas non plus une page qui a été la vraie page tournée. On va la voir l'année prochaine. Sans Mbappé, là, il y aura plus Mbappé, Neymar, Messi. Je pense pas qu'ils auront. On verra d'ailleurs quelle stratégie ils vont adopter cet été. Est-ce qu'ils vont taper dans une superstar? Comment ils vont s'organiser? Mais la boussole PSG n'a pas radicalement changé de cap.
Stéphane, le problème, c'est que oui, il va partir. Mais pour moi, et je le disais déjà il y a 3 ans, ça ne doit pas être un problème. Ils trouveront soit une star, soit ce sera le collectif.
Et on verra.
L'important, c'est ce que dégage l'équipe
de mettre en place.
Moi, je voulais que Mbappé, s'il est là, qu'il soit respecté et il s'en et s'il part, qu'il parte, c'est pas un souci. Il faudra le remplacer. Le collectif devra répondre. Ce que dégage l'équipe. Encore une fois, je disais, tu perdras en Coupe d'Europe. Ok, si t'avais pris le Real en 8e cette année et que tu t'étais fait éliminer ou City, qu'est-ce que l'équipe a dégagé? Ce qu'elle dégage quand elle perd après avoir ouvert le score au Bernabeu il y a 2 ans, elle dégage cette impression de se chier dessus, de pas être dans le combat, de disparaître. L'année dernière contre le Bayern, c'est pareil. L'équipe ressemblait à rien. Neymar, il était allé faire les tournois de poker. Il était blessé. C'était une catastrophe.
Non, mais là, on
perdre n'est pas un problème.
Sommet, hein.
Dans le foot, perdre, ça ne doit pas être un problème. Gagner, perdre, tout. Qu'est-ce que tu dégages? Qu'est-ce que tu offres aux gens qui viennent te voir? Et là, moi, mais en tout cas, j'en étais convaincu dès le début de la saison. On allait avoir une belle saison. On a une belle saison.
Dans un instant, Sili donnera son avis au 32-16. Et ensuite, on oubliera le PSG pour parler de la course à l'Europe en Ligue 1, la course en maintien, la sonorisation des arbitres, plein d'autres sujets encore Ligue 1 dans l'after jusqu'à minuit. À tout de suite.
RMC, l'after foot.